Moi, je suis en train de vous au café oriental. J'ai réfléchi totalement ce qui
se passe. Moi, j'ai essayé de vous combattre au café oriental. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, merci de choisir Radio Okapi et bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échanges citoyens. 24 avril 90, 24 avril 2016, 26 ans jour pour jour, les Congolais ont célébré les 26 ans de démocratisation du pays. Certains observateurs estiment que l'absence du consensus autour du processus électoral et l'alternance observée actuellement risquent de mettre un coup d'arrêt à l'avancement du processus de démocratisation du pays. Et l'autre opinion estime plutôt qu'il est encore possible de redémarrer et consolider ce processus dont l'élan a été pris depuis 1990. Qu'en pensez-vous? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Julie Pesa Bongonda et Kosandare réalise cette émission, coordonnée et présentée par J.R. Mugembo sous la supervision de Martin Sebou Jangwe. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Mugembo.
Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook et aussi commenter directement dans cette émission comme l'ont souhaité certains auditeurs qui ont déjà pris leur inscription pour débattre avec nous de manière citoyenne. Nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio le professeur Mokonda Bonda. Bonjour professeur.
Bonjour.
Alors vous êtes sénateur et ancien directeur de cabinet du feu Maréchal Mobutu.
Exact.
Voilà. Alors aujourd'hui, 26 ans après, nous nous souvenons de cette célèbre phrase que le maréchal Mobutu avait utilisée dans son discours, dans la conclusion de son discours du mardi 24 avril 1990. Mobutu disait ceci à ses chers compatriotes: une page nouvelle de notre pays vient de s'ouvrir et je me permets de nourrir des grandes espérances sur l'avenir de nos institutions. 26 ans après, quel est le bilan?
Le bilan est un peu mitigé dans une certaine mesure. Effectivement, le 24 avril 1990, le président Mobutu avait lancé l'idée de la démocratisation. Même si dans un premier temps, il avait parlé d'un multipartisme à trois, en réalité, les événements qui ont succédé cette journée l'ont amené à opter en définitive pour un multipartisme intégral. Même si aujourd'hui, en y réfléchissant, on s'est dit, est-ce que le multipartisme intégral était réellement la solution? Mais aujourd'hui, est-ce qu'on va reculer? Je ne crois pas. Même si il y a certaines forces qui travaille dans le sens de d'amener le pays, d'amener la classe politique vers, disons, je dirais, un monopartisme. Mais je crois que le train de la démocratisation qui a quitté la gare le 24 avril 1990, quelles que soient les embûches, quels que soient les obstacles, ce train va poursuivre son chemin. Effectivement, vous disiez tout à l'heure, bon, consensus pour les élections, est-ce que cela ne va-t-il pas bloquer? Je crois qu'il y a une certaine similitude entre la situation qui a prévalu en 1990 et celle que nous connaissons aujourd'hui. J'ai dit bien une certaine. Certaine dans la mesure où, que ce soit le président Mobutu en ce moment-là, qui arrivait pratiquement au terme de son septennat du social, et avec de l'arrivée de forces nouvelles politiques sur l'étiquier, il n'était pas tout à fait sûr de son avenir. Il ne maîtrisait pas le lendemain. Aujourd'hui, nous avons également un président de la République qui est pratiquement au terme de son second mandat. Et la Constitution dit qu'il ne peut pas avoir un troisième mandat, qui n'est pas non plus sûr de son avenir, qui ne maîtrise pas non plus toutes les données. Voilà pourquoi je disais qu'il y avait une certaine similitude. Mais en réalité, pour la constitution de 80, avant 90, il n'y avait pas de limitation de mandat pour le président Mobutu. Même le président Mobutu, qui a tiré les leçons de son propre discours et du vent de démocratie qui soufflait partout dans le monde, avait décidé de modifier la constitution pour s'adapter à la nouvelle situation du multipartisme. Alors, aujourd'hui, l'actuel président, le président Joseph Kabila, malheureusement, ne peut pas modifier la constitution, puisque l'article 220 donne un certain nombre de dispositions qui sont intangibles. Donc, il ne peut pas modifier la constitution. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pense que c'est tout simplement qu'il se soumette à la loi fondamentale qu'il a lui-même promulgué, que ce soit en 2006, en décembre, tout comme en 2011, en décembre toujours, il a prêté solennellement, serment, de respecter la Constitution et les lois de la République. Donc, à mon sens, le président de la République, s'il veut être grand, s'il veut vraiment laisser son nom dans l'histoire, il ne peut que respecter la Constitution et ne pas s'y retrouver.
Alors, professeur, vous avez évoqué des cas de similitude, c'est vrai, une certaine similitude. Ça nous renvoie peut-être à faire une petite réflexion à cette époque-là, 90, tout le monde, comme je l'ai dit, dans sa conclusion, Maréchal Mobutu avait vraiment l'intention de pouvoir engager le pays dans la démocratisation, mais on s'est rendu compte, deux ans après, on commençait un peu à titiber, à tâtonner, à traîner les pieds, et tout cela a mis le pays autour d'un débat qui a tourné autour, parce qu'on sait que le pays a été gouverné par un acte de constitution pour la transition, je crois. Alors, il y avait des débats autour des élections, c'est comme aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut attribuer la responsabilité aux différents professeurs, comme c'est le cas aujourd'hui, par la mauvaise interprétation, parfois, de certaines dispositions constitutionnelles, ou qu'il n'arrive pas à apporter de l'éclairage comme il faut, le professeur, et de la plupart des cas qui étaient autour à l'époque de Mobutu, directeur de cabinet comme vous, membre le plus proche de ses collaborateurs. Aujourd'hui, c'est pareil, ceux qui sont plus proches et qui sont constitutionnalistes et qui sont aussi au pouvoir développent des théories qui semblent être des théories scientifiquement prouvées.
Bon, scientifiquement prouvées, ça, c'est vous qui les dites. Mais ce qui est vrai, c'est que toute personne qui détient le pouvoir, et le président Mobutu l'avait, ça faisait plus ou moins 25 ans, il avait acquis un certain nombre d'habitudes. Ce n'est pas toujours facile de se départir de ses habitudes. C'est aussi vrai que dans l'entourage de tout homme politique, de tout chef d'État, de tout roi, il y a plusieurs personnes qui gravitent autour. Et vous avez vu qu'à l'époque du président Mobutu, on avait pratiquement deux camps. Un camp baptisé de Colombe, un autre qui était baptisé de Faucon. Et il y avait certaines forces centripètes ou d'autres forces centrifuges autour du président Mobutu. Mais la volonté était celle de poursuivre le processus de démocratisation, même si on a constaté à un certain moment qu'il y avait un petit relâchement. Mais on s'est également rendu compte que dans la société civile, dans la classe politique, la volonté était d'aller de l'avant. Et quels que soient les quelques actes qui auraient été posés à l'époque, soit par le président Mobutu, ou soit par ses collaborateurs que vous fustigez, mais dans l'ensemble, le chemin a été poursuivi. On a dû convoquer la conférence nationale souveraine. Et le président Mobutu ne voulait pas de cette conférence nationale, il voulait plutôt d'une conférence constitutionnelle. Il a même fait publier une ordonnance à ce sujet. Mais finalement, il a été obligé, face au contexte du moment, il a été obligé de faire une ordonnance pour convoquer la conférence nationale qui s'est rendue souveraine par la suite.
Alors, avant de lever le standard avec nos auditeurs, est-ce qu'on peut dire que la guerre de 1997, l'arrivée de l'AFDEL, a constitué quand même une pesanteur, un frein pour l'élan qui a été déjà engagé en 1997?
Bien sûr que oui, parce que quand l'AFDEL arrive, le président de la République, en ce moment-là, décide que tous les partis politiques ne pouvaient plus avoir d'activité. Les partis ne pouvaient plus se réunir. Donc c'est l'AFDEL qui avait tout le pouvoir. Le pays appartenait à l'AFDEL. Il suffisait de voir, par exemple, l'acte constitutionnel de transition rédigé en 97. À ce moment-là, il y a eu un frein. Et il a fallu attendre un peu, il faut le reconnaître, l'arrivée du président Joseph Kabila pour que le processus redémarre. Mais aujourd'hui, on a l'impression que le processus bat de l'aile, mais je crois que le processus va se poursuivre.
Alors aujourd'hui, nous avons une constitution. Et quand nous lisons le préambule ou l'exposé des motifs, c'est clairement dit les raisons qui ont mené aujourd'hui après la rencontre de Saint-Sulpice pour qu'on arrive à mettre sous pied, à élaborer cette constitution. Entre autres, en fait, on voulait mettre fin à cette crise à répétition
de légitimité.
Alors, les débats qui tournent autour de l'alternance aujourd'hui, ça nous renvoie encore 26 ans à l'arrière.
Ça veut dire que si nous voulons faire bien les choses, si nous voulons être corrects, normalement, à partir du moment où le mandat du président de la République se termine, donc ça veut dire le 19 décembre 2016, après, c'est l'illégitimité. Or, il faut éviter cela. Et pour éviter qu'on ne retombe dans la fameuse crise à laquelle vous faites allusion, donc il faut nécessairement qu'on organise des élections. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, les instances internationales, que ce soit au niveau de l'ONU, de l'Union européenne et d'autres, insistent sur la tenue des élections, ne fût-ce que l'élection présidentielle. Parce que c'est l'unique élection pour laquelle il y a des dispositions constitutionnelles bien précises. L'article 70, si mes souvenirs sont bons, stipule que 90 jours avant la fin du mandat du président d'exercice, la CENI doit convoquer les scrutins à l'élection présidentielle. Donc ça, c'est prévu déjà par la Constitution. Et si on procède à l'organisation des élections, il va de soi que le problème des légitimités ne se posera pas.
081-891-75, pour votre intervention en direct, vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec le reporter de Radio Capi.
Nous recevons, donc nous accueillons le premier auditeur qui nous a rejoint dans ce débat, Amos, vous êtes à Bukavu. Amos, bonjour.
Bonjour JF, bonjour à l'invité, dont j'étais à saluer ces analyses combien patriotiques, mais toutefois des analyses détaillées. En fait, par rapport au sujet d'aujourd'hui, nous pensons que le respect des textes est l'un des principes de la démocratie. Malheureusement, aujourd'hui, nous faisons face dans notre pays à des dirigeants qu'on peut qualifier de gourmands, à des dirigeants qu'on peut qualifier des égoïstes, qui pour leurs intérêts, égoïstes comme je le disais tantôt, veulent clochardiser nos textes, et plus particulièrement, je vois la Constitution. Nous avons toujours dit hier que la Constitution pour d'autres pays est considérée comme les chrétiens ou les vrais chrétiens peuvent considérer la Bible.
Oui, Amos.
Malheureusement, chez nous. Oui.
Est-ce que tu peux avant, vous pouvez avant d'évoluer, faire d'abord le bilan aujourd'hui, 24 avril 1990, 24 avril 2016, 26 ans après. Quel est le bilan selon vous de la démocratisation du pays?
Le bilan, En fait, vous savez, 24 ans, nous avons tous salué le fait que Mobutu avait permis que le peuple congolais accède à la démocratie en autorisant le multipartisme. Et c'est ce qui devait en fait permettre à tout le monde de penser et de raisonner comment nous pouvons faire évoluer notre démocratie, comment consolider notre démocratie, chose que tout le monde avait saluée. Avec les élections que nous avons connues en 2006, en 2011, même ces élections étaient mal organisées par celles qui détiennent le pouvoir, mais quand même, c'était une avancée. C'était une avancée pour ce qui est de la démocratie. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, nous sommes en train de constater que les dirigeants en place ne veulent pas permettre que cette démocratie évolue, ne veulent pas permettre la consolidation de cette démocratie. C'est pourquoi nous sommes en train de constater avec beaucoup de regrets des gens qui entourent le chef de l'État et qui veulent le pousser à la faute au nom de leurs intérêts égoïstes. Vous savez, hier, moi, si vous faisiez de suivre les gens de la majorité présidentielle qui nous gouvernent aujourd'hui, ils passent les longueurs de journal de dire non, ils ont développé le pays, c'est pourquoi ils veulent permettre à Joseph Kabila d'aller même au-delà des mandats lui reconnus par la Constitution. Dernièrement, j'ai suivi un ministre de la Santé qui était de passage à Bukavu, un ministre national, et qui va se permettre de dire à la salle maternelle que non, le fait que le président Kabila est en train de développer le pays, on va le permettre d'aller jusqu'au-delà, même au-delà de 2016. Moi, je me suis dit, finalement, on ne comprend pas. Ce sont quel genre de dirigeants que nous avons qui ne veulent pas comprendre que le fait que nous devons respecter notre constitution, cela permet non seulement que la paix soit au pays, mais aussi le développement. Parce que d'autres pays qui ont évolué, ce sont des pays qui ont su respecter leurs textes. Et en respectant leurs textes, on respecte, en fait, les mandats reconnus au pouvoir qui est en place.
Oui, Amos,
voilà pourquoi nous nous disons.
Oui, Amos, est-ce que vous ne pensez pas comme les autres que cette tare est partie dès l'annonce, d'ailleurs, de cette démocratisation en 90, parce qu'avec toutes les étapes difficiles qu'on a traversées, le matin, on se réveille, il y a des entraves, Mobutu ne veut pas laisser la main libre aux opposants. La suspension ou la révocation du Premier ministre issu de la conférence nationale quelques années plus tard. Alors, toutes ces difficultés-là, en fait, ont fait qu'aujourd'hui, et c'est vrai, bon, l'histoire danse, les gens ne comprennent plus que c'est qu'on a vécu par le passé.
Oui, c'est ce qui a causé à Mobutu ce que nous déplorons aujourd'hui. Je pense que Mobutu, c'est le fait qu'il n'a pas voulu respecter les principes de la démocratie. Voilà comment il est parti. C'est fait que les mêmes gens qui ont entouré Mobutu, qui entourent le président en place, sont en train de vouloir aussi faire pour le président en place.
Voilà, merci.
Parce que les mêmes gens qui induisaient Mobutu en erreur, ce sont ceux qui entourent aujourd'hui encore le président en place, pour qu'ils parviennent à l'induire en erreur comme ils ont fait pour Mobutu.
Alors, merci beaucoup, Amos. Pour vous, le respect des textes est l'un des principes de la démocratisation. Aujourd'hui, il faudrait que tous nous regardons dans le même sens, hein, le sens de développement de notre pays. Maître Omar, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Julien. Bonjour à l'invité.
Vous avez la parole, Maître Omar. Parlez un peu fort. Hein.
Merci, Julien. Ça va maintenant?
Oui, allez-y.
Oui, je disais merci pour la parole que vous m'accordez. 26 ans après, un bilan s'impose. Et mon propos aujourd'hui, je voudrais être évaluatif. Mais avant tout, je voudrais, m'inscrire en foi à ce que M. Mokonda dit. C'est vrai que c'était sous pression internationale et sous pression de la population que Mobutu a déclaré un tel propos. On lui reconnaît beaucoup d'avancées, Monsieur le Président Mobutu. Mais sur le plan démocratique, son bilan est négatif, ainsi que son équipe, dans laquelle inclut M. Mokonda, doit être véridique. Il parle de l'alternance. L'alternance n'est pas une action individuelle, c'est un changement de vie. Le Maroc n'a pas d'élection, la Belgique non plus, mais c'est un pays qui vit mieux. Et en parlant d'illégitimité, il faut faire comprendre à la population de l'État que c'est une action sociologique. Ce n'est pas le fait qu'un homme politique dit qu'il sera illégitime. L'illégitimité, c'est quoi? C'est un pouvoir qui n'est pas reconnu par les autres. Est-ce que M. Mokonda a parcouru toutes les provinces pour dire que ce pouvoir n'est plus reconnu? Ça peut être faux, mais il faut avoir une certaine humilité quand on sait qu'on fait quelque chose.
Voilà, alors,
mais aussi, avant de répondre à la question,
oui, Maître Omar. Oui, Maître Omar, je crois que nous devons quand même corriger une chose. Hein. Notre invité parlait tout à l'heure de l'article 70 qui stipule que l'électorat est convoqué 3 mois avant la date d'expiration du mandat du chef de l'État.
d'État, c'est-à-dire au mois de septembre. N'est-ce pas? Arriver au mois de septembre, c'est-à-dire le problème de légitimité que posera. Je crois que c'est dans ce sens-là. Peut-être vous l'avez pris en cours, ou peut-être vous l'avez compris autrement, je ne sais pas.
C'est ça la réalité, pardon, c'est ça le principe. Mais il faut savoir ici que dans chaque cas, ça suffit des circonstances exceptionnelles. Nous sommes tous démocratiques, nous voulons qu'il y ait élection dans le respect du délai. Mais il faut savoir que dans chaque cas, il y a des choses inattendues qui arrivent imprévisibles. Et si cela arrivait, et que la CENI est réellement dans la difficulté de remporter les élections.
Maître Omar, il y a votre prédécesseur tout à l'heure, Ramos, a au fait souligné une chose hein, que lui personnellement a observé à Bukavu, un responsable du pays est allé dans une salle où il tenait une conférence, a insisté pour dire mais voilà, tant que le mandat arrive à la fin, mais au regard des réalisations, nous ne pouvons que faire encore confiance à l'équipe actuelle et leur accorder encore un autre temps, même si cela n'est pas constitutionnel. Lui, il a trouvé que c'était pas quand même correct pour un responsable.
C'est pas correct que je soutienne mon prédécesseur, parce que qu'on l'ait bien travaillé ou pas, qu'on ait un bilan positif ou pas, dès que le délai est arrivé à son terme, il faut partir. C'est la règle du jeu. Mais je voudrais simplement vous dire, Jaco, dans chaque règle de jeu, il y a toujours des circonstances imprévisibles et surmontables. Et si tel est le cas avec la CENI, moi, je pense qu'il y a un principe, ça concerne ce qui s'appelle la continuité des services publics. Mais de la part de ceux qui gouvernent, il doit avoir aussi un certain bon sens pour dire que mon mandat a fini pour éviter la frustration populaire, je dois partir. Je n'ai pas assez de temps technique ce débat. Je passe rapidement à l'évaluation pour dire hier, il y a des éléments qui font de la démocratie, notamment la garantie des libertés publiques. Je pense qu'il y a eu des avancées en ces 26 ans d'années d'existence démocratique, mais certainement on remarque que les libertés médiatiques où on laisse les opposants comme M. Moko d'entrée de s'exprimer. Mais au niveau des manifestations, il y a encore un travail à faire. On parle également de la protection des droits de l'homme. Là, il y a vraiment un problème. On limite les droits de l'homme au seul droit politique, alors qu'il y a des droits à l'éducation, droits à la santé, droits économiques, etc. Il y a aussi un principe au sein de la séparation des pouvoirs. 26 ans après, on a comme l'impression que ce principe souffre encore. On a un pouvoir théoriquement séparé, on a législatif, judiciaire, on a également l'exécutif, mais de la pratique, c'est autre chose. J'ai devant moi ici le bilan de la législature passée. Il y a eu des contrôles parlementaires, mais aucun contrôle n'a abouti à une sanction publique. Nous avons des parlements qui existent, un gouvernement qui existe, un judiciaire qui existe, mais on a comme l'impression que tout est insufflé par les effectifs. Et enfin, nous avons également la primauté du droit de l'État et tout le respect des textes. Dans un État démocratique, on doit respecter les textes. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. C'est très certain qu'on respecte la loi, mais dans l'autre cas, on respecte pas la loi. Et enfin, l'élément mineur, c'est l'organisation des élections. Et là, j'ai demandé à votre question. Moi, je pense, hier, nous avons tous opté comme un mode de gouvernance la démocratie, ce qui est d'ailleurs bon pour le peuple. Et parmi les éléments principaux, il y a l'organisation des élections pour accéder au pouvoir. C'était un choix que nous avons fait, nous avons le respecté. En ces jours, bloquer volontairement ces processus, je dirais, comme vous l'avez dit, un frein à la démocratie. Il faut aussi penser que s'il y a des circonstances qui arrivent, s'il y a des cas inattendus, il faut aller au
dialogue pour les gouvernements. Merci beaucoup.
Je voudrais finir par dire
une chose. Rapidement, parce qu'il y avait un lien et certaines auraient bien
l'autorité. Je voudrais finir par dire une chose. Le seul mot qui peut nous gouverner, c'est le respect des règles que nous avons établies. Nos ancêtres n'avaient pas la démocratie. Il y avait seulement la justice, mais il n'y avait pas de problème. On doit aussi contextualiser la démocratie africaine par rapport à nos réalités. Car la Belgique n'a pas de pouvoir électoral, mais elle survit et tout se passe bien. Donc il faut contextualiser la démocratie par rapport à la RDC. Il faut respecter les règles de l'État.
Merci beaucoup, Maître Omar, d'avoir appelé des Kinshasa. Nous retenons qu'il faut contextualiser la démocratie en RDC. Ça nous permettra de prendre vraiment de l'élan et de consolider ces acquis. Merci beaucoup. Maître Adrien, vous êtes à Kananga. Bonjour et bienvenue dans la parole aux auditeurs. Maître Adrien, bonjour. Arsène, vous êtes à Kikwit. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, monsieur JR, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Oui, quel est votre avis?
Merci beaucoup pour la parole. Je crois que moi, je suis de cette école-là, l'école de Mobutu et de Papa Wemba. Le 24 avril nous dit beaucoup de choses. Cette école, que j'appelle l'école de Mobutu et de Papa Wemba, politiquement, Mobutu, arrivé en 1990, Je crois que pour Mobutu, il ne voulait pas faire sortir ses élèves de l'école. Mais les contraintes qu'il avait a poussé à faire sortir ses élèves de l'école. Il a eu les conséquences avec la liberté qu'il a donnée à ses élèves, parce qu'il les avait formés pour ça. Il a formé les Congolais. Quand il a formé les Congolais, il leur a donné tout ce qu'il fallait. La façon de parler, la façon de s'habiller, la façon de vivre, il a donné toute une identité. Et quand il a donné son discours, il a lâché les Congolais. Maintenant, le bilan, 26 ans après, les Congolais ont évolué ou bien il a été stationnaire? Moi, je crois que le Congolais a évolué. Le Congolais a eu la liberté d'expression. Et personne, je dis bien personne, ne peut les empêcher. Vraiment, le pain est déjà en marche. Ceux qui pensent, ceux qui sont en train de rêver encore l'époque des colons noirs, sont en train de commettre une grosse erreur. Aujourd'hui, 26 ans après, certes, nous avons des avancées quelque part, nous avons des reculs de l'autre côté, mais tous ceux qui ont cherché à empêcher cet élan sont tombés KO. Aujourd'hui, 26 ans après, nous devons faire une seule chose, respecter nos accords, respecter la Constitution. Dès que nous respectons la Constitution, je crois que le Congolais n'est pas violent. Il est déjà violent quand vous l'empêchez de faire ce qu'il a dans sa liberté. Aujourd'hui, pardon ?
Allez-y,
aujourd'hui, 26 ans après, moi je crois qu'il faut faire fi de tous ces rêveurs, de tous ces nostalgiques de l'époque de colons noirs. Aujourd'hui, le peuple congolais est libre. Il est attaché derrière sa constitution et personne ne peut les empêcher. Quand ils vont tenter, les empêchés vont être écrasés dans la route. Voilà ce que je peux dire.
Merci beaucoup. Alors, on revient à vous, professeur Mokonda Bonza. C'est vrai que vous êtes sénateur et ancien directeur du cabinet de Martial Mobutu, et aussi président de la Convention des démocrates chrétiens, CDC. Vous venez de suivre cette série des auditeurs. Et c'est vrai, il y a les uns qui trouvent que, comme vous, le bilan est mitigé. Il y a des choses qu'on a appréciées, d'autres, par contre, vont même plus loin pour dire, mais voilà, il faut que nous contextualisons notre démocratie. Bon, voilà, donc, quelle est votre réaction?
Mais, je crois que je voudrais tout simplement dire quelque chose à Maître Omar, que moi, je n'étais pas l'invité de Radio Okapi pour venir présenter le bilan du président Mobutu. C'était pas ça la question à l'ordre du jour. Et puis Mobutu est mort il y a longtemps, ce n'est plus aujourd'hui qu'on doit parler du bilan du président Mobutu. Et je crois aussi, heureusement, vous êtes intervenu pour dire que le correspondant a tout à fait mal compris ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit que le président Joseph Kabila aujourd'hui était illégitime. Le président Kabila aujourd'hui est légitime. Jusqu'au 19 décembre 2016, si après cette date, il continue à exercer le pouvoir sans créer des élections, en ce moment-là, il y a un problème d'illégitimité. C'est ce que je voulais dire. Alors, qu'il y ait des circonstances exceptionnelles, je ne sais pas ce qu'il entend par circonstances exceptionnelles. Parce que moi, je suis au Parlement et je sais que depuis 2012, le Parlement a voté chaque année dans le budget de l'exercice de chaque année un montant, une enveloppe en prévision des élections qui devaient se tenir 5 ans plus tard. Et le budget est géré par qui ? Est exécuté par le gouvernement. Et c'est le gouvernement qui doit mettre à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante de moyens pour le financement des élections. Donc il y a que le gouvernement qui doit aujourd'hui expliquer qu'a-t-il fait depuis 2012 jusqu'à 2016. Est-ce une circonstance exceptionnelle? Personnellement, je ne crois pas. Au contraire, je dirais qu'il y a eu plutôt mauvaise gestion de la part de l'exécutif. C'est cela qui explique qu'aujourd'hui, on dise qu'il n'y a pas de moyens pour financer les élections. Et d'ailleurs, Maître Omar, sans que j'en ai parlé, a mis de l'eau dans mon moulin. Lui-même a parlé de l'impunité, du fait qu'on ne respecte pas les textes. Justement, je disais que l'article 70 de la Constitution disait que trois mois avant la fin du mandat, la CENI doit nécessairement convoquer les scrutins à l'élection présidentielle. Et je disais d'ailleurs que, à partir de ce moment-là, les présidents de la République, pour qu'il y ait la paix dans le pays, pour qu'ils puissent partir en grand homme et laisser un grand nom dans l'histoire, il ne devait que respecter la Constitution qu'il a lui-même promulguée. Et j'ai encore ajouté le fait que lui-même a prêté serment et en 2006 et en 2011. Donc, je ne dis pas que les présidents étaient légitimes.
La crainte de certaines personnes, aujourd'hui, si nous comparons les époques, c'est vrai parce que nous l'avons mentionné, la quelques similitudes, il y a eu entre 90 et 97, Palais de Marbre 1, Palais de Marbre 2. Est-ce que nous ne craignons pas aujourd'hui concertation nationale, dialogue, et demain encore, une autre rencontre? Mais tout ça, comme on l'a dit, la démocratie qui est en train de
basculer. Oui, je crois que les dialogues, les concertations, tout ça,
palais de marbre 1, palais de marbre 2,
ça retarde
les facilitateurs,
ça retarde la démocratie.
Mmh.
Écoutez, pourquoi il y a eu palais de marbre 1 ou palais de marbre 2? C'est parce que dans le discours du 24 avril, le président de la République avait dit que un an plus tard, il y aura organisation de l'élection. Certaines grandes personnalités ont même commis l'erreur en croyant que cette disposition-là se trouvait dans la Constitution révisée, je crois si mes souvenirs sont bons, de juin ou de juillet 90. Or, cette déclaration figurait dans les discours et non pas dans la Constitution. En ce moment-là, l'opposition disait que, à partir d'un certain moment, le président Mobutu devenait illégitime. Parce que un an après le 24 avril, on était censé organiser les élections. Or, la conférence nationale a été convoquée en juin ou juillet 1991. D'où, comme personne n'avait préparé les élections, il fallait trouver une solution. D'où le palais de marbre 1 ou le palais de marbre 2. Mais aujourd'hui, le contexte est tout à fait différent. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que la similitude n'est que partielle. Le président de la République a mis en place un gouvernement depuis 2012. Depuis avril 2012. Donc, l'actuel Premier ministre, il est à l'hôtel du Conseil depuis avril 2012 et aujourd'hui, ça fait 4 années bien sonnées.
Et la Constitution depuis 2005-2006, voilà.
Et donc, ça veut dire que tout était là pour organiser les élections, d'autant plus que le Premier ministre dit que tout va très bien, qu'on a une très belle croissance, qu'on n'a jamais connu une période aussi faste que celle-là, que le taux de croissance était entre 8 et 9%. Raison de plus pour quelqu'un qui a bien géré, qu'il ait prévu de moyens pour l'organisation des élections en 2016. Mais si on arrive en 2015 et en 2016, on dit qu'il n'y a pas d'argent, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a donc une contradiction. Est-ce le gouvernement a-t-il bien géré? Est-ce que le chef du gouvernement a-t-il été à la hauteur de ses responsabilités? Et là, je crois qu'il y a un problème. Donc, ce n'est pas parce qu'on a très mal géré, excusez-moi, ce n'est pas parce qu'il a très mal géré le pays, donc le budget du pays, les finances de la République, qu'aujourd'hui, il faut réunir les gens pour que tout le monde vienne cautionner, en fait, sa mauvaise gestion, en essayant de trouver un arrangement pour qu'on aille au-delà des délais constitutionnels. À ce moment-là, il amènerait toute la classe politique et même la société civile à violer intentionnellement la Constitution. Alors, nous serions tous dans une situation de haute trahison.
Alors, est-ce que, dans les deux époques, est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est là en face des ambitions personnelles qui ont primé, donc un problème d'homme, en lieu de place des intérêts, de la communauté, des intérêts républicains?
Mais je crois que il faut être juste. Que ce soit en 90 ou que ce soit aujourd'hui, nous les hommes politiques, ce que nous devons privilégier, c'est l'intérêt général. et non nos intérêts égoïstes. À partir du moment où nous privilégions les intérêts égoïstes, alors à ce moment-là, nous sommes en déphasage par rapport à l'intérêt général, par rapport aux aspirations de la population, il y a des problèmes. Et quel type de problème ? On cherche le moyen de se maintenir au pouvoir en utilisant la force.
Alors, on va regarder le standard. Jean Placide est à Kinshasa, Maître Pascal à Dungu, Madame Joséphine à Boston, aux États-Unis. Jean Placide, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci. Je tiens tout d'abord à vous saluer, Radio Capi, et au professeur Mokonda Bonza, qui fut un de mes formateurs. Je salue tout le monde. En fait, mon intervention voudrait être formulée par le fait que il s'est passé 26 ans depuis que le concept de démocratie a été éjecté en République démocratique du Congo. Néanmoins, l'évolution des nouveaux concepts est devenue... Allô?
Allez-y, Jean-Claude.
Et venu davantage frustrer la classe politique congolaise. Rémémérons-nous un tout petit peu, en passant en revue, le mode de passation du pouvoir dans notre pays. À l'indépendance, c'est dans des conditions encore déplorables que les colons italiens s'est préparé avec le Congolais. Alors, je vous dirai, pour votre information, en fait, qu'on rappelle le discours du Premier ministre qui avait surpris tout le monde et qui était venu essayer d'empoisonner les relations diplomatiques avec notre colon qui était la Belgique. Voilà la première condition. Descendant de la passation du pouvoir Kasavubu à Mobutu. C'était un coup d'État, malheureusement. Mobutu, arrivé malade, il va être chassé à partir de la guerre de 97 par Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila, malheureusement, va être assassiné et par arrangement politique, tant international, tant national qu'international, c'est Joseph Kabila qui va prendre le fauteuil. Voilà aujourd'hui ce que je peux apporter comme contribution aujourd'hui. J'ai dit, Joseph Kabila est en face de la nation congolaise. S'il voudrait vraiment nous donner la chance, moi je suis de la décennie 80, donc nous n'avons jamais assisté à une passation de pouvoir dans l'amiable entre les présidents sortants et les présidents entrants. Toujours dans des conditions déplorables. Moi je pense qu'aujourd'hui, il voudrait réécrire l'histoire de ce pays. Je pense que s'il avait dit qu'il a des bons conseillers, il les lui dit. Donc c'est le moment, arrivé à la fin de son mandat, il devrait nous donner la chance, nous qui sommes Congolais, nous qui avons été Zaïrois plus dans le passé, que nous ayons la chance d'assister comme dans les autres
États.
Donc, une passation du pouvoir dans l'amiable et dans toute sérénité. Voilà.
Merci beaucoup, Jean Placide. Merci beaucoup. Maître Pascal, vous êtes à Dungu. Bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs.
Merci, monsieur le journaliste. Merci aux démocrates congolais. Merci à la Radio Capi qui nous console tant soit peu la liberté de médias. Et je profite à vous donner bonne journée de la presse.
Merci, Maître Pascal.
Merci. Merci, monsieur le journaliste. Avant de commencer l'introduction, je vais ouvrir la parenthèse pour dire que nous devons savoir définir la RDC. La RDC se définit comme la République démocratique du Congo. Ne changeons pas les choses. Le dieu de la démocratie pour mettre le dieu des désordres que demain qu'on puisse nous définir la République des désordres du Congo. Je ferme la parenthèse, monsieur le journaliste, concernant la thématique du jour, c'est très pertinent que nous devons bien expliquer à nos compatriotes congolais. Nous disons d'abord, d'après moi, nous devons distinguer les trois sortes de la démocratie. C'est selon les rôles du peuple dans la décision. Nous voyons, on va voir la démocratie représentative, on va voir la démocratie semi-représentative qu'on appelle semi-directe et la démocratie directe qui sera développée dans mon exposé. Monsieur le journaliste, mon intervention va s'atteler à la démocratie sociale parce que j'ai toujours l'habitude de parler de la sociale de notre pays. On va voir, messieurs les journalistes, que sur le plan social, comme on demande le bilan. Le bilan est mitigé. Nous devons savoir, comme on parle de 26 ans, jour et jour, pour la démocratie. Nous devons savoir que les 26 jours, 26 ans moins 10 ans qu'on a donné à M. Joseph Kabila, il y a quand même des avancées concernant la démocratie. Nous devons être réalistes et nous devons être conscients. Et puis nous devons rappeler à notre peuple, quand on a donné le président Kabila le mandat, il nous avait dit que non, il fera les 5 chantiers. Les 5 chantiers, selon le dictionnaire, c'est les choses qui... Donc quand on parle de maison en chantier, c'est les choses qui ne peuvent pas terminer. C'est là qu'il a dit que non, il a procédé. Il a mis la démocratie en marche, que d'autres vont terminer avec ça. Mais c'est le journaliste...
Alors, conclusion, Pascal.
Dans le monde.
Maître Pascal, en conclusion. Oui, rapidement.
En conclusion, monsieur le journaliste, je vais conclure avec l'État indépendant du Congo au 30 juin 1990.
Oui, Jean-Placide a évoqué ça.
Du Congo...
Oui, Jean-Placide,
pardon, monsieur le journaliste.
Jean-Placide venait de l'évoquer, on est que nous revenons parce qu'il y a les standards continuent à sonner. En tout cas, il y a une pile de temps, une longue pile, donc on doit quand même accorder la parole à une minute à chacun. Merci, maître Pascal. Madame Josephine, vous avez appelé de Boston, aux États-Unis. Bonjour et bienvenue dans la parole aux auditeurs. Madame Josephine? Voilà, je crois qu'on a des petits soucis avec. Alors, professeur Mokonta-Boza, nous rappelons d'ailleurs à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre que nous recevons dans ce studio professeur Mokonta-Boza, qui est sénateur et président de la Convention des démocrates chrétiens, CDC, et aussi ancien directeur de cabinet de Maréchal Mobutu, Sese Koku Wendo Wazabanga. Voilà, vous venez de suivre cette deuxième série des auditeurs. Quelle est votre réaction?
Bon, je crois que la plupart d'intervenants insistent sur un passage pacifique de témoins. On rappelle dans quelles conditions le président Mobutu est arrivé au pouvoir. Dans quelles conditions Mobutu lui-même a quitté le pouvoir. Et comment le président Laurent Kabila a été assassiné. Et comme je le disais tout à l'heure, personnellement, je supplie le président Joseph Kabila pour qu'il fasse tout son mieux, qu'il n'écoute pas dans son camp le faucon, qu'il écoute plutôt le colombe et qu'il dise qu'il ne va pas se représenter, qu'il organise les élections pour qu'il puisse procéder à la passation pacifique de pouvoir avec son successeur. Je crois que il aura marqué l'histoire de notre pays. Et son nom sera inscrit en lettres d'or dans les annales de l'histoire de notre pays.
Mais l'histoire nous rappelle que les colombes à l'époque de Mobutu n'ont pas été écoutées facilement. Et vous avez fait partie de ces colombes d'ailleurs. Vous avez été directeur de cabinet. Par après, nous avons vu, l'histoire nous renseigne. Le groupe de Mokonta-Boza, Vundawe, vous avez été mis de côté. Les autres, bon, je ne sais pas, c'est selon les appellations des uns et des autres, les Ngwanda, les Baramoto et les autres ont pris les rênes jusqu'à la fin. C'était pas facile.
Mais, cher ami,
parce que les colombes, c'est
toujours, si les colombes n'ont pas eu raison en ce moment-là, et quelle est la suite de l'histoire? Je crois que l'histoire a fini par donner raison aux colombes.
Mais aujourd'hui, on a du mal à prendre en compte cette réalité, parce qu'aujourd'hui, nous avons vu, et si nous pouvons peut-être comparer, bon, c'est incomparable, le départ de cette fête aujourd'hui, de la majorité. On se dit, bon, c'est une équipe qui était avec la majorité, sortir. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que, c'est vrai, c'est la démocratie, mais il n'y a pas rendu Soros?
Bon, écoutez, je ne voudrais pas parler du V7. Ils étaient dans la majorité, ils nous ont rejoints dans l'opposition, c'est une très bonne chose, mais si, tous ensemble, nous pouvons lutter pour le respect de la Constitution, nous pouvons lutter pour la consolidation de la démocratie dans notre pays, je crois que c'est l'essentiel pour le moment.
Mais le cadre de dialogue?
Les dialogues...
Tous les diplomates, toute la communauté internationale demandent assez clair...
Mais pourquoi demandent-ils?
Que pays le voient royal?
C'est parce qu'ils veulent éviter, par exemple, le passage en force. Ils veulent éviter que le sang du peuple congolais n'écoule à nouveau. Et moi, je pense qu'on n'a pas besoin de dialoguer. parce que les financements des élections, ce n'est pas le dialogue qui va trouver la solution. La sécurisation des élections, ce n'est pas le dialogue. En 2006, en 2011, pour sécuriser les élections, on n'avait pas dialogué. La sécurisation est du ressort du gouvernement. Et la Constitution dit bien que le gouvernement a à son service l'administration, la police, les forces armées. Ce sont ceux-là qui sécurisent les élections. Mais est-ce que doit-on organiser le dialogue pour qu'il y ait enrôlement des nouveaux majeurs? Mais la CENI avait déjà prévu l'enrôlement des nouveaux majeurs. Doit-on organiser les dialogues pour que aujourd'hui on puisse enrôler les Congolais de l'étranger? Puisque la loi a déjà prévu l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Alors, on va au dialogue pourquoi? On va se cotiser là-bas, trouver de l'argent pour financer les élections? C'est le gouvernement qui finance les élections. Et si le gouvernement n'a pas tous les moyens, mais il y a la communauté internationale, le gouvernement peut se retourner du côté de la communauté internationale, la coopération bilatérale, la coopération multilatérale, pour demander
un complément. Le 24 avril mérite d'être vraiment célébré en RDC, aujourd'hui, 26 ans après.
On ne le célèbre pas, malheureusement. On doit pouvoir le célébrer, parce que c'est une date importante. Comme disait le président Mobutu dans les textes que vous veniez de lire, une page de l'histoire du Congo venait d'être tournée. C'est comme le 30 juin 1960. Une page de l'histoire du Congo venait d'être tournée. Donc ce sont des dates importantes.
La nouvelle page n'est-elle pas passée maintenant?
Bien que cela, mais comme disait un intervenant de tout à l'heure, je suis convaincu que le processus démocratique se poursuivra et se consolidera malgré les entraves que l'on connaît aujourd'hui.
Maître Alain nous a rejoint, il y a Taliba, Obanyema, et puis Maurice, Tati Kassa. Maître Alain, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kapi.
Oui, quel est votre avis?
Monsieur le journaliste, mon même avis, je trouve qu'il y a des avancées à 50% et d'autres qui restent à peur. Par rapport à ça, monsieur le journaliste, nous avons remarqué que ces trois points qui sont restés, les avancées, je les avais énumérés, je vais les énumérer pour essayer un peu d'étaler les avancées de la démocratie. Premièrement, nous avons remarqué en 2006 et en 2011, il y a eu l'organisation des élections. Voilà la première avancée qui montre la suffisance qu'il y avait des avancées. Et en deuxième position, nous avons remarqué qu'il y a l'appartenance des multipartismes tant dans l'opposition que dans la majorité. Voilà les points qui se caractérisent aussi les avancées de la démocratie. À part ça, le troisième point, à mon avis, selon ce que j'ai remarqué, il y a la liberté d'expression des peuples congolais dans nos radios qui prouve la suffisance qu'à 50%, il y a eu vraiment des avancées. Mais quand cela était ministre des journalistes, nous avons remarqué que la démocratie devrait être durable. Mais à la lire où vont les choses, ministre des journalistes, cette démocratie est à la point d'être bloquée par rapport à la dérive de la discussion et présidentielle qui nous
a fait. Merci beaucoup, maître Alain. On va prendre Maurice qui est à Kinshasa. Maurice, bonjour.
Oui, bonjour, Jérôme. Oui, je salue aussi l'ensemble des auditeurs qui nous suivent en l'instant.
Quel est votre avis?
Oui, je veux dire ceci. Vous savez que la date du 24 avril 90 n'est pas tombée du ciel. Donc ici, nous devons toujours avoir quand même à l'esprit cette quand même bonne volonté en fait de pouvoir reconnaître les gens qui ont joué les rôles, en fait les rôles les plus déterminants pour que cette date soit. Vous comprenez? Ici, il faut noter par exemple l'Église catholique. Et c'est ce qu'elle dit, surtout lui qui a vraiment battu, qui a payé même le long tribut pour que la date de 24 soit réellement en fait, effective. Alors, je disais ceci, contrairement au professeur qui pense que le dialogue est inopportun, mais lui-même évoqué, il a dit depuis 2012, on suppose que depuis 2012, selon lui, on devait avoir en fait, les fonds nécessaires, parce que c'est chaque année qu'on devrait en fait prévoir 200 millions de dollars américains pour l'organisation des élections qui devraient intervenir 5 ans après. Et à ce jour, ce gouvernement dont il fait allusion nous dit qu'ils n'ont pas de moyens pour organiser des élections. Alors, pourquoi les dialogues? Les dialogues, c'est juste pour aller constater d'abord la mauvaise foi, les détournements de fonds. Parce que, de toute façon, depuis 2012 jusqu'à ce jour, on suppose qu'on devrait avoir 1 milliard de dollars américains pour nous organiser des élections crédibles et apaisées dans ce pays. Alors, nous allons constater la mauvaise foi, les détournements de fonds destinés à l'organisation des élections pour la sanction de ces auteurs. Parce que ces gens-là, comme ils ne veulent pas organiser des élections, c'est-à-dire qu'ils visent la violence. Il faudra les écarter.
Alors, oui, Maurice, vous irez au dialogue. Voilà, c'est votre droit. Quelle sera la valeur juridique de ce dialogue? Les décisions qui en sortiront, qui pourra endosser le Parlement pour sanctionner qui?
Mais nous allons sanctionner d'abord le gouvernement de la République.
Qui doit sanctionner
parce que les parlementaires nous disent que dans leur budget, ils avaient prévu
mais
au moins des millions de dollars américains chaque année pour l'organisation des élections.
Oui,
alors que ces gens-là.
Maurice, je crois que pour constater le cas des détournements, le Parlement venait de faire la réduction des comptes tout à l'heure, il y a quelques temps. Nous avons tous, la même question a été posée, je vois qu'il y a l'honorable Lokondo, il y a José Makila qui est revenu sur ça, pour ne pas les citer. Mais pourquoi ce contrôle n'a pas abouti jusqu'à sa fin, jusqu'au même aux sanctions? Il faut que nous attendions le dialogue pour sanctionner.
Oui, c'est un club d'amis, le pays est géré par un club d'amis. Entre parlement et gouvernement, c'est toujours bonnet blanc, blanc, bonnet. Donc, raison pour laquelle nous disons qu'il faut maintenant sortir du cadre institutionnel pour aller dans un dialogue où on doit voir tous ces problèmes et sanctionner et tous ces gens-là qui ne veulent pas organiser les élections et qui veulent à tout prix qu'il y ait de la violence dans ce pays.
Merci beaucoup, Maurice. Ben, vous l'avez dit. Je crois que nous avons tous appris que les décisions qui sortiront du dialogue seront par après endossées par le parlement pour couler sous forme de loi. Parce que on voudrait bien donner une valeur juridique à toutes ces décisions. Merci beaucoup. Félicien, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, Gérard. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, Félicien, vous avez pensé que dans tout ça, c'est un problème de système et c'est un problème d'homme.
Oui, c'est un problème de système que nous ne voulons pas combattre et un problème d'homme qui doit changer parce que ce qui complique l'avancée de la démocratie au pays. Parce que quand Mobutu va prendre la décision de démocratiser le pays, il a autour de lui des groupes, les modérés ou Colombe, et puis les Dire ou les Faucons. Et quand Mosé arrive, il nous dit qu'il y avait autour de lui un conglomérat d'aventuriers et d'opportunistes. Alors aujourd'hui, il faut que nous puissions faire une recherche pour savoir où se trouvent les Faucons de Mobutu et les opportunistes de Mosé. Et si ces gens-là se retrouvent autour du pouvoir actuel, ils peuvent que bloquer la démocratie. Et c'est là notre problème.
Merci beaucoup, Félicien. Je crois qu'on n'a plus assez de temps. On va accorder 2 minutes à notre invité. Voilà, donc c'est la grande question aujourd'hui, professeur Mokonda Bonda. Les Faucons d'hier, de Colombes aussi, sont-ils autour du pouvoir actuel? Ce qui fait qu'aujourd'hui, pratiquement, leur présence constitue aussi à cette pesanteur après à l'avancement de la démocratie à RDC.
Cher ami Gilles, moi, je ne suis pas là pour juger. Je ne suis pas dans un tribunal.
Non, les Faucons, les Colombes, les conglomérats, les aventuriers, voilà. Voilà tout ça.
C'est vrai que Mobutu avait ses collaborateurs, Laurent Désiré Kabila avait les siens, et cette définition qu'a donnée tout à l'heure Félicien, elle était même sortie de la bouche même du président Laurent Kabila, je me rappelle encore, parce que j'étais à Kinshasa. Je crois que le problème, c'est un problème du respect de texte. Qu'on ne cherche pas les collaborateurs, c'est lui qui détient le pouvoir. C'est lui qui a prêté serment. C'est lui qui est au service de la population. Parce que le pouvoir appartient au peuple. Le peuple lui a fait confiance en lui confiant cette responsabilité. Et lui, il a prêté serment devant la nation. C'est à lui. Mais ils n'ont pas toujours les collaborateurs. Les collaborateurs peuvent être de bonne foi, peuvent être de mauvaise foi. Ça, c'est un peu humain. Les humeurs changent à tout moment. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un problème capital. Depuis l'indépendance, un des intervenants est revenu sur la question. Il n'y a jamais eu un passage de témoin. Et aujourd'hui, il faut nécessairement que notre président, le président de la République, en tout cas, fasse tout pour arriver à ce passage pacifique. Qu'il y ait une alternance qui soit crédible, qui soit pacifique, pour éviter que les Congolais ne s'entretuent, pour éviter que le sang congolais ne coule. Il y a déjà plus de 6 millions de Congolais qui sont morts. Et chaque jour, on nous apprend qu'au Kivu, il y a des morts. Au Katanga, il y a des morts. À Kinshasa même, il y a des morts. Et un peu partout. Je crois que c'est trop pour un jeune pays. Le pays doit plutôt tendre vers son développement. Il faut plutôt que les dirigeants essaye de galvaniser les énergies de la population, mettre au travail la population pour lutter contre la pauvreté. Ça, c'est ce qu'on attend du chef de l'État. Et ça, c'est ce qu'on attend du futur chef de l'État. On n'attend pas d'un chef d'État que le sang de sa population coule, qu'il se maintienne au pouvoir contre l'avis de la population. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ce que les différents intervenants venaient d'apporter comme contenu.
C'était avec un grand plaisir, professeur Mokonda Bonza, sénateur et président de la Convention des démocrates chrétiens, CDC en sigle, et aussi ancien directeur de cabinet de M. Mobutu. C'est Koko Kongo Ouazabanga. Nous allons prendre rendez-vous avec les auditeurs demain dans un autre numéro. Nous vous rappelons que nous allons continuer à rendre hommage, en tout cas les derniers hommages à Papa Wemba dans cette émission Parole aux auditeurs, qui se fera le plaisir de recevoir l'un des ministres de la culture et qui a imprimé d'ailleurs la politique culturelle pour aider notre musique et aussi notre art. Et bien entendu, M. Béhé Djema. Prenez rendez-vous avec nous déjà. Le sujet sera sur le site www.radiotapi.net. Encore merci à professeur Mokonda Bonza et à très bientôt.